dans Liaison Fatale, l'un des films les plus populaires des années 80. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Dan, interprété par Michael Douglas, que vous connaissez, Michael Douglas. Cet homme a tout pour être heureux. Il a un travail d'avocat passionnant, une femme ravissante et une petite fille magnifique de 6 ans. Mais un jour, sa vie bascule. Lors d'un cocktail, il se laisse séduire par Alex. Alors, c'est une femme, ce n'est pas notre pasteur, hein. Interprétée par Glenn Close, une actrice très connue. Et il cède à ses avances. Pour Dan, cette rencontre est une aventure sans lendemain, mais pour Alex, qui est follement amoureuse, cette rencontre est tout sauf une aventure sans lendemain. Pour elle, l'aventure n'est pas du tout finie. En fait, l'aventure ne fait même que commencer. Du coup, elle s'accroche à Dan et elle refuse catégoriquement de disparaître de sa vie. Elle s'ouvre les veines. Elle l'appelle en pleine nuit. Elle lui fait croire qu'elle est enceinte. Elle kidnappe même sa fille. À première vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Alex semble complètement folle à lier, n'est-ce pas? C'est peut-être ce que vous pensez, mais le réalisateur du film pose cette question. En tout cas, il force le spectateur à se poser cette question. Qui est fou? Qui est véritablement fou? Et qui est véritablement sain d'esprit dans cette histoire? Eh bien, si l'auteur du livre que nous allons lire ensemble cet après-midi avait vu Liaison Fatale et devait répondre à cette question, vous savez ce qu'il aurait répondu? C'est Alex qui est sain d'esprit. C'est elle qui a tout compris. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que l'amour, ou plutôt que l'expression de l'amour physique entre un homme et une femme, n'est pas quelque chose d'anodin, sans conséquence, sans danger. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce que l'amour finalement? Comment définir l'amour? À quoi le comparer? Eh bien, je crois que c'est précisément à ces questions-là que répond le texte que nous allons lire ensemble ce matin, mais j'aimerais prier avant toute chose. Prions ensemble. Je lis ces paroles du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis très humilié. Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. Seigneur, cet après-midi, c'est notre prière. Au nom de Jésus, fais-nous vivre par ta parole. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou osé lire le Cantique des Cantiques, mais s'il s'agit d'un livre assez original, n'est-ce pas? C'est un livre au moins original pour quatre raisons. Je les énumère très rapidement. Première raison, c'est que le Cantique des Cantiques est écrit dans un style absolument unique en son genre. C'est une pièce de théâtre, un poème ruisselant de métaphores, parfois très, très énigmatiques. Deuxième raison, c'est que le Cantique des Cantiques ne fournit pas tous les éléments d'une histoire suivie, ce qui rend son interprétation très difficile. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous ne savez pas toujours très bien ce qui se passe et qui parle. C'est pas facile. En tout cas, j'ai essayé de mettre la structure du livre au dos des bulletins que Jonah a préparé pour nous. Et je suis vraiment conscient qu'il y a beaucoup d'interprétations et que cette interprétation en est une parmi tant d'autres. Je pense que la structure du Cantique des Cantiques est en fait un chiasme, une structure composée notamment d'éléments parallèles entre eux avec un message central. Mais je le répète, et je suis vraiment conscient, il ne s'agit que d'une interprétation parmi tant d'autres. Il n'est pas vraiment facile de discerner la structure du livre. Troisième raison pour laquelle le Cantique des Cantiques est un livre original, c'est un livre où le nom de Dieu n'est jamais mentionné de manière explicite. C'est surprenant ça, un livre de la Bible où le nom de Dieu n'est peut-être jamais mentionné. Alors je dis de manière explicite, parce qu'en fait, il y a pour certains commentateurs une référence quand même à Dieu dans le passage que nous allons lire au chapitre 8 et au verset 6. Enfin, quatrième et dernière raison pour laquelle le Cantique des Cantiques est un livre original, si vous l'avez lu, vous serez certainement fait cette remarque, c'est que si vous lisez ce livre, littéralement. Vous obtenez, excusez-moi, appelons un chat, vous obtenez un livre clairement, clairement érotique. Ce qui a suscité un certain étonnement qui est peut-être le vôtre aujourd'hui, alors même où nous parlons comment la Bible, un ouvrage si sacré, comment la Bible, un ouvrage si spirituel, peut-il contenir un livre qui parle aussi ouvertement de l'amour physique entre un homme et une femme? Cette question, c'est peut-être la vôtre aujourd'hui, en ce moment même, dans votre cœur. Alors, pour justifier la présence d'un tel livre dans le canon biblique, le canon, la liste des livres hein, qui font autorité en matière de foi, certains théologiens l'ont lu et l'ont interprété comme une allégorie, c'est-à-dire une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée, mais en utilisant une histoire, voyez-vous. Et selon cette interprétation, c'est très intéressant. Le recours au vocabulaire de la tendresse physique, de l'amour humain, serait en fait utilisé pour parler d'autre chose. De l'amour de Dieu pour son peuple, et ce dans les moindres détails. Par exemple, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. C'est un livre, d'accord, qui décrit la réalité physique des choses telle qu'elle est, pour un commentateur du 5e siècle, après Jésus, bien entendu. Les seins de la bien-aimée représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai ce que je dis. Après tout, hein, la Bible est la source à laquelle l'Église se nourrit. Mais selon vous, qui se cache derrière le bouquet de myrrhe dont il est question dans ce même verset? Est-ce que vous avez une petite idée? Ancien, Nouveau Testament, qui est au centre de l'Ancien et du Nouveau Testament? C'est Jésus, tout simplement, pour ce commentateur. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, personnellement, je pense que l'interprétation allégorique du Cantique des Cantiques pose de nombreux problèmes théologique notamment, et là encore une fois, si vous avez des questions, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Rendez-vous sur le canapé, hein, après le culte, autour d'un bon verre. Et je pense personnellement qu'il est préférable de lire ce livre, tout simplement, comme une célébration glorieuse de l'amour physique entre un homme et une femme. Un poème dont le seul but est finalement de nous parler d'amour, une série de tableaux impressionnistes qui produisent une impression, qui font un effet bœuf sur le lecteur, en lui faisant ressentir les sentiments et les émotions de deux êtres qui s'aiment beaucoup, à la folie, passionnément. Jugez plutôt, chapitre 1, versets 9 et 10. À la jument attelée au char du Pharaon, je te compare, ô ma compagne. Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Chapitre 2, versets 2 et 3. Comme un lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. C'est beau, non? C'est beau! Si vous voulez écrire un poème à celui ou à celle que vous aimez, si vous êtes amoureux secrètement d'une fille dans la classe, les garçons, les filles, si vous êtes secrètement amoureux d'une fille, d'un garçon, pourquoi ne pas vous inspirer du Cantique des Cantiques? C'est beau, non? Et il me semble que c'est dans ce sens, une célébration vraiment glorieuse de l'amour physique entre un homme et une femme. C'est dans ce sens que je propose donc de lire ce livre, le passage qui nous intéresse, un passage situé à la fin du livre où l'homme et la femme, après s'être cherchés mutuellement, sont enfin réunis pour célébrer la beauté d'un amour exclusif. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7. Si vous cherchez le Cantique des Cantiques dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament et c'est juste avant le livre d'Ésaïe. C'est comme ça que je m'en souviens personnellement. Cantique des Cantiques, chapitre 8, des versets 5 à 7. Qui est celle qui monte au-dessus du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là même où ta mère t'a conçu, là où te conçut celle qui t'a enfanté. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. J'ai mis le plan au dos de vos bulletins. Je vous propose de voir trois choses assez simples. Cet après-midi, premièrement, l'amour est fort comme la mort, au verset 6. Deuxièmement, dans la première partie du verset 7, le verset 7a, l'amour est plus fort que les grandes eaux. Et troisièmement, la deuxième partie du verset 7, 7b, l'amour est plus fort que l'argent. Premièrement donc, verset 6, l'amour est fort comme la mort. Dans la première partie du verset 5, sur lequel nous allons passer rapidement, on assiste à l'arrivée de la bien-aimée au bras de son bien-aimé. Et dans la deuxième partie de ce verset, la bien-aimée évoque le jour où elle a éveillé l'amour chez son bien-aimé. En fait, comment l'amour a commencé entre eux? Je pense qu'il y a une référence au verset 3 du chapitre 2. Il est précisé sous un arbre. Et au début du verset 6, la bien-aimée exprime le désir que cet amour perdure en étant scellé. Regardez encore le verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. » Comme un sceau sur ton bras. Un sceau, c'est-à-dire une empreinte officielle, une signature qui garantit authenticité, appartenance, protection et intimité. Autrement dit, c'est un peu comme si la jeune fille avait dit, et là je paraphrase, hein, « J'aimerais, mon bien-aimé, que nous nous appartenions et que nous soyons ensemble pour toujours. Que nous soyons unis de manière inséparable. » Engageons-nous complètement, corps et âme, l'un envers l'autre, de manière absolument exclusive. Protégeons notre couple, ne laissons personne s'immiscer, personne, dans son intimité. Pourquoi finalement? Pourquoi l'amour est-il si fort? Pourquoi a-t-il besoin d'être scellé, d'être protégé? Pourquoi un homme et une femme ont-ils besoin d'être unis de cette manière? Eh bien, je crois que c'est tout simplement à cause de la nature même de l'amour que l'auteur du Cantique des Cantiques nous décrit dans ce verset. C'est une force. Car l'amour est fort. Fort comme la mort. Ou amore forte. En brésilien. Merci Judson qui m'a pris cette phrase juste avant le culte. Fort dans le sens d'inflexible, d'indomptable et d'absolument invincible. Par exemple, qu'est-ce que vous inspire l'amour? Si je vous dis amour, là, tout de suite, maintenant, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de suite? Personnellement, je pense que je fais référence à la Saint-Valentin, à un film d'amour avec Hugh Grant, tel que Coup de foudre à Notting Hill, ou bien encore Love Actually. Je pense encore à une chanson de Céline Dion. Bref, j'arrête là, ok? À quoi pensez-vous si je vous dis amour? À quoi pense l'auteur du Cantique des Cantiques quand il parle d'amour? À la mort. L'amour est fort comme la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un mourir, mais la mort est une force invincible dans le sens où elle ne lâche pas celui qu'elle tient entre ses mains. C'est fort. Et vous voyez, il en est de même pour l'amour. Est-ce que vous avez remarqué la succession des parallélismes dans ce verset? Regardez encore le verset 6. L'amour est fort comme la mort. La passion, vous avez peut-être la jalousie dans vos versions, est dure, indomptable, inflexible comme le séjour des morts. Vous avez peut-être comme la tombe dans vos versions. Les fièvres ou les flammes de l'amour sont des fièvres brûlantes. Une flamme de l'éternel. Peut-être pour souligner que l'amour, finalement, est un don de Dieu. Alors, dans la première partie de ce message, je suis conscient que je m'adresse plus particulièrement aux jeunes adultes célibataires. Et vous êtes quelques-uns cet après-midi. Si vous songez à fréquenter quelqu'un, ça m'est arrivé. Ça nous est tous arrivé quelque part. Si vous songez à fréquenter quelqu'un, avez-vous déjà médité sur la nature de l'amour? Est-ce que vous avez déjà songé à cette réalité que l'amour est fort, fort comme la mort? Et si vous entretenez une relation avec quelqu'un, je ne peux que vous encourager avec, en toute humilité, à vraiment faire preuve de prudence, à ne pas jouer avec les sentiments de cette personne. Par exemple, C'est ce que j'ai fait par le passé, c'est ce que je regrette et c'est ce que je vous encourage à ne pas faire. En toute humilité, on ne badine pas avec l'amour. On ne rigole pas avec ça. L'amour, même à l'état naissant, c'est fort. C'est sérieux. L'amour est fort. Fort comme la mort. Il a ses exigences avec lesquelles on ne transige pas. Il réclame un engagement exclusif. Il n'a pas de place pour quelqu'un d'autre dans l'intimité d'un amour authentique. Alors qu'est-ce que l'amour? À quoi le comparer? L'amour est une force. L'amour est une force. Fort comme la mort. Deuxièmement, l'amour est une force plus fort que les grandes eaux. Regardez avec moi la première partie du verset 7, le verset 7a. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Alors dans la Bible, vous êtes peut-être familier avec ce genre de vocabulaire, mais les grandes eaux et les fleuves font généralement référence aux situations difficiles de la vie qui ont parfois tendance à submerger les hommes. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? L'amour est plus fort que tout ça. Un amour authentique résiste, selon ce texte, à toutes les épreuves de l'âme, de la vie. L'amour est un feu qu'aucune eau, selon ce passage, qu'aucun fleuve ne peut éteindre. C'est une force inébranlable, indestructible, insubmersible, que rien, absolument rien ne saurait emporter. L'amour est plus fort que les grandes eaux. Encore une fois, il a ses exigences avec lesquelles on ne transige pas. Il réclame un engagement exclusif que rien, absolument rien, ne saurait éteindre ou submerger. Au début de ma vie chrétienne, je me rappelle avoir fréquenté une fille à Paris qui m'a un jour posé la question suivante, que je n'ai jamais oubliée, la preuve, c'est que je m'en rappelle encore aujourd'hui, et je vous la confie. Cette fille m'a un jour demandé, est-ce que tu m'aimeras toujours quand je serai toute fripée et toute ridée? Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Un mois après notre mariage, à la veille de notre départ pour la France, c'était en 2008, le père de Meg a donné 3 conseils à sa fille en tant que jeune mariée. C'était une scène assez émouvante. Le père de Meg a parlé à sa fille dans sa chambre, il avait les larmes aux yeux, il lui a donné 3 conseils. Je ne me souviens que d'un conseil, je me permets de vous le livrer avec la permission de Meg. Je ne lui ai pas demandé, mais ça devrait aller. Il lui a dit, et je n'oublierai jamais ce conseil, vous êtes marié, c'est bien. Continuez à vous courtiser. Vous êtes marié, c'est bien. Continuez à vous courtiser. Tomber amoureux, le coup de foudre, c'est facile. J'ai dû tomber amoureux un million de fois dans ma vie. Le rester, n'est-ce pas un peu plus difficile? L'amour est plus fort que les grandes eaux. Il ne réclame pas seulement des sentiments ou une attirance physique, même si ces choses ont une place dans la relation amoureuse, mais un engagement exclusif que rien, absolument rien, ni le passage du temps, ni les circonstances de la vie, parfois dramatiques, ne saurait éteindre ou submerger. Alors si vous n'êtes pas marié, et c'est le cas de certains d'entre nous cet après-midi, imaginez votre futur mari, votre future femme dans 40 ans. L'aimerez-vous encore quand le temps aura peut-être marqué son visage, atténué sa beauté? Et si nous sommes mariés, et là je suis bien conscient qu'il y a certaines personnes dans cette salle qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, je pense à Lucien et à Charlotte qui ont 65 ans de mariage, toutes mes félicitations. Je dis ça en toute humilité et j'avoue que là je m'adresse avant tout à moi-même. Mais si nous sommes mariés, si je suis marié, c'est mon cas, mon amour pour ma femme est-il plus fort que les grandes eaux? Mon amour pour Meg est-il plus fort que les grandes eaux? Une force inébranlable, indestructible, que rien ne saurait éteindre. La force de cet amour est-elle aussi vive qu'au premier jour? Que faisons-nous, qu'est-ce que je fais pour continuer à nous courtiser concrètement, pour entretenir la force de cet amour que nous avons éprouvé un jour et qui a parfois tendance à osciller en fonction des circonstances de la vie et de nos sentiments, parfois changeants. En tout cas, c'est le cas de mes sentiments. Pourquoi, par exemple, ne pas prendre le temps, cette semaine, de lire ensemble le Cantique des Cantiques? C'est ce que nous avons fait la semaine dernière avec Meg. Ça nous a pris 16 minutes. Et vous savez quoi? Ça m'a fait quelque chose. Lisez ensemble le Cantique des Cantiques. Je pense que ce livre est fait pour être lu ensemble. C'est beau, c'est magnifique. Ça me donne des chatouilles dans le ventre. C'est magnifique. Pourquoi ne pas lire le Cantique des Cantiques ensemble cette semaine? Pourquoi ne pas vous écrire un poème chaque année, en vous inspirant par exemple du Cantique des Cantiques? Ça, je dois l'appliquer avant tout à moi-même, je ne l'ai pas encore fait. Alors, qu'est-ce que l'amour? À quoi le comparer? Eh bien, vous l'aurez compris, l'amour est une force. L'amour, premièrement, est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que les grandes eaux. Dernièrement, deuxième partie du verset 7, le verset 7b, l'amour est plus fort que l'argent. Lisons ensemble la deuxième partie de ce verset 7. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Autrement dit, l'amour n'a pas de prix. L'amour ne s'achète pas. L'amour n'est pas à vendre. Et en un sens, hein, les Beatles n'ont rien inventé. Les Beatles, c'est pas trop ma génération, mais c'est peut-être votre génération. Ils ont un jour écrit une chanson, Money can't buy me love. L'argent ne peut pas m'acheter l'amour, littéralement. C'est strictement impossible. L'amour est un bien, bien trop précieux. C'est un bien, bien trop précieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Cocktail, dans lequel Tom Cruise, un acteur qu'on ne présente plus, hein, Tom Cruise, ça vous dit quelque chose? Joue le rôle d'un barman qui séduit une fille en Jamaïque. Il faut dire qu'il a appris à préparer des cocktails à la perfection. Il fait passer la bouteille en haut, en bas, devant, derrière, et puis il rattrape le verre. Il casse jamais rien. Bref, il séduit cette fille. Elle tombe amoureuse de lui. Il se retrouve un jour à New York. Entre-temps, un événement s'est passé, a gâché la relation. Il veut se racheter. Il veut lui prouver qu'il l'aime. Et là, le père de la fille donne un chèque de 10 000 dollars à Tom Cruise pour qu'il cesse de l'aimer et pour qu'il disparaisse de sa vie. Vous savez ce que fait Tom Cruise du chèque? Il le déchire en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que son amour pour cette fille est plus fort. Tellement plus fort. Tellement plus fort que l'argent. L'amour est plus fort que l'argent. Il est dur, intraitable en affaire. Un amour authentique est un don libre et volontaire de sa personne. Que rien ne saurait acheter. Pas même 10 000 dollars, pas même 10 millions d'euros, pas même tout l'or du monde. L'amour est plus fort que l'argent. Encore une fois, il a ses exigences avec lesquelles on ne transige pas, avec lesquelles on ne négocie pas. Je conclue. L'amour, vous l'aurez compris, est donc une force. C'est sa vraie nature, son vrai visage. Mais avez-vous remarqué, est-ce que vous avez remarqué, que les caractéristiques de l'amour entre un homme et une femme, en général, correspondent à l'amour de Dieu pour son peuple. Est-ce que vous avez remarqué que les caractéristiques de l'amour en général, de l'amour entre un homme et une femme en général, ce que nous avons vu, correspondent à l'amour de Dieu pour son peuple? Je ne pense pas que ce que je suis en train de faire soit une lecture allégorique, mais typologique du Cantique des Cantiques. En parlant de l'amour du reflet, en fait de l'amour de Dieu pour son peuple, de manière générale et pas dans tous les détails. Je suis en train de dire que l'amour entre un homme et une femme est le reflet, en général, de l'amour de Dieu pour son peuple. D'ailleurs, le mot « amour » dans le texte original vaut aussi bien pour l'amour entre un homme et une femme que pour l'amour entre Dieu et son peuple. C'est exactement le même mot. Il n'y a pas de distinction dans l'original, en hébreu, en tout cas. Mais est-ce que vous avez remarqué que cet amour, celui de Dieu pour son peuple, est aussi considéré comme une force dans le reste de la Bible? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'amour est fort comme la mort? Inflexible, intense, invincible, qu'il ne lâche rien. En tout cas, pas celui qu'il tient. Et, comment dire, cela ne vous rappelle rien? Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Écoutez ce que dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis, ce sont ceux que Jésus appelle à lui. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Si vous êtes chrétien cet après-midi, dans le sens de disciple de Jésus, personne ne peut vous arracher de la main de Jésus, de son amour pour vous. Est-ce que vous avez aussi remarqué que l'amour de Dieu pour son peuple est plus fort que les grandes eaux? Aucun événement, aucune circonstance de la vie, rien ni personne ne saurait l'éteindre ou le submerger. Mais encore une fois, cela ne vous rappelle rien? Romains chapitre 8, versets 38 et 39. « Car je suis persuadé, dit l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Romains, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il a fini sa phrase. Amen. Aucun événement, aucune circonstance de la vie, selon ce verset, rien ni personne ne saurait éteindre ou submerger l'amour de Dieu pour nous. Vous avez aussi remarqué peut-être que l'amour de Dieu pour nous est plus fort que l'argent. Il ne s'achète pas, il ne se négocie pas, c'est un don libre et volontaire de soi. Encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais cela ne vous rappelle rien. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, je pense entre nous que, en tant que mari, nous avons le rôle le plus difficile peut-être. Aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que vous voyez l'amour sacrificiel de Dieu pour vous, pour nous, dans ces versets? Dans la personne de son Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus, a aimé l'Église, son peuple. Il s'est donné lui-même pour elle. C'est ce que dit le verset 25. Dans son amour, Jésus a fait le don, l'offrande libre et volontaire de sa personne en acceptant de mourir à ma place. Et pour tous ceux qui se repentent, qui lui demandent pardon, qui placent leur confiance en lui. Sur la croix, Jésus a scellé, en fait, son amour pour nous, si nous sommes chrétiens. Il s'est engagé à nous aimer d'un amour exclusif, inconditionnel, éternel. C'est lui, l'époux, notre époux, votre époux, si vous êtes chrétien, par excellence. C'est à lui que nous serons unis pour l'éternité quand il reviendra. Et entre parenthèses, est-ce que vous avez déjà songé, médité sur la personne de Jésus en tant qu'époux? En fait, dans la Bible, l'amour en général entre et le mariage entre un homme et une femme, qui reste une institution divine capitale, je ne suis pas du tout en train de minimiser l'importance du mariage, mais cet amour entre l'homme et la femme, en général encore, je pense que ma lecture est typologique et non allégorique, est l'image, la préfiguration, le reflet d'un amour, d'un mariage bien plus important. Celui de Jésus et de son peuple, vous, si vous êtes chrétien, pour l'éternité, alors que nous soyons mariés ou célibataires. Voilà le mariage dont il faut se réjouir. Est-ce que vous vous réjouissez d'être unis à Jésus pour l'éternité? Voilà le mariage qu'il faut attendre avec impatience. Est-ce que vous attendez ce mariage avec impatience, plus que tout autre mariage, si vous êtes célibataire? Est-ce que vous l'attendez avec un ardent désir? Et est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que je m'y prépare? Dans la pureté et dans la sainteté. Prions pour finir. Nous pouvons peut-être passer quelques secondes à réfléchir dans le fond de notre cœur à ce que nous avons vu. L'amour est une force, fort comme la mort, plus fort que les grandes eaux, plus fort que l'argent. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'amour entre un homme et une femme, qui dans ta parole est le reflet de ton amour pour nous, un amour exclusif, inconditionnel, éternel. Je prie, Père, que tu nous aides à méditer sur la nature de cet amour, qui est une force, à t'aimer en retour de tout notre cœur, et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.